Conclusion, les règles de la discussion délibérative. Débattre, c'est faire l'expérience de l'incertitude. Même parfaitement préparés et très expérimentés, nous ne pourrons jamais prédire ce qui va se passer. Savoir quelle fourberie, facétie ou ânerie nous réserve l'adversaire. Sans parler bien sûr de notre propre imprévisibilité. Parviendrons-nous à trouver les mots, forger les réparties, combattre avec détermination sans se laisser déborder par les émotions? Plutôt qu'un échiquier bien ordonné, le débat contradictoire est une jungle impénétrable dans laquelle nous avançons sans jamais connaître ce qui nous attend. Nous ne sommes pas sans ressources cependant. Nous disposons d'une boussole pour nous orienter, 4 principes qui se déclinent en 18 fondements stratégiques. Ensemble, ils ne constituent pas un manuel qu'il suffirait d'ouvrir à la bonne page pour savoir quoi faire en toutes circonstances, mais plutôt une ligne de conduite, une inspiration qui doit nous aider à élaborer une solution adaptée à chaque situation. Libre ensuite à chacune et chacun d'entre nous de répertorier soigneusement, mois après mois, année après année, nos inventions, trouvailles et manigances. C'est ainsi que, progressivement, nous composerons non plus un guide stratégique, mais notre propre recueil tactique, adapté à notre éthos et notre éloquence. Peut-être un jour, l'auteur de ces lignes publiera-t-il le sien, ce serait un tout autre livre. Terminons avec ce que nous avons jusqu'à présent laissé de côté, les discussions délibératives. Ce sont, rappelons-le, les échanges dans lesquels nous ne cherchons pas à vaincre, mais bien à convaincre notre interlocuteur, en acceptant en retour l'éventualité d'être convaincu par lui. Il s'agit naturellement d'un environnement beaucoup moins stratégique que les débats compétitifs. Nous n'y cherchons pas le triomphe, mais le consensus. Il n'en existe pas moins un ensemble de 4 règles spécifiques à la délibération. Les enfreindre ne causeraient pas notre perte, comme c'était le cas pour les 4 principes de l'affrontement contradictoire. En revanche, cela augmenterait radicalement le risque que la discussion bascule dans la compétition, voire dans le conflit. Si nous désirons nous engager dans la recherche d'une solution partagée avec notre interlocuteur, il va donc falloir intérioriser ces quelques préceptes. Nous les avons dégagés lors d'un précédent travail de recherche. Contentons-nous ici de les rappeler brièvement. La première règle, c'est l'interaction des argumentations. Dans une discussion délibérative, nous ne pouvons pas nous permettre d'ignorer une partie des preuves mises en avant par l'interlocuteur et nous contenter d'attaquer les maillons les plus faibles de sa chaîne. Nous ne pouvons pas non plus revendiquer crânement la victoire après avoir pourfendu un élément mineur de son raisonnement. Il en serait légitimement agacé, nous n'aurions fait que dégrader nos chances d'emporter sa conviction. Il va donc nous falloir prendre le temps de comprendre la structure des différentes lignes argumentatives, éprouver la solidité des clés de voûte, sans nous laisser distraire par les points accessoires. Nous allons même devoir accepter de concéder, nous résoudre à abdiquer sans détour les arguments qui auront été fragilisés par notre contradicteur, et bien évidemment, exiger de lui qu'il s'applique la même rigueur. La deuxième règle, c'est la réfutation des positions. Dans une dynamique délibérative, nous devons nous interdire de chercher la disqualification de l'interlocuteur. Renoncer à attaquer son éthos, que ce soit directement ou bien en débordant à partir d'un argument désavoué ou d'une contradiction dévoilée. Nous ne ferions ce faisant que le courroucer. Il va donc falloir nous imposer de réfuter sa position et ne jamais chercher à le discréditer. Notons que, contrairement à ce que l'on pense parfois, l'exigence de réfutation n'est en rien incompatible avec l'utilisation du pathos. Comme nous l'avons vu, les émotions font partie intégrante de la raison, elles ont toute leur place dans la délibération. La troisième règle, c'est la subjectivation des interventions. Dans le débat contradictoire, nous avons tout intérêt à nous imposer avec force, paraître résolument convaincus, pour en devenir hautement convaincants. Cela nous incite à désubjectiver nos positions. Nous avons tendance à les présenter comme des certitudes incontestables. Or, si cette technique se révèle efficace pour avoir un impact sur les auditeurs, elle tendra irrémédiablement à faire basculer l'interaction dans le conflit. Dès lors que deux contradicteurs s'opposent des vérités générales, il n'y a plus de place pour la délibération. Celle-ci suppose que nous soyons capables d'entendre les objections et de faire éventuellement des concessions. Or, une vérité ne peut être ni concédée ni amendée, seulement imposée contre celle mise en avant par l'interlocuteur. Si nous voulons avoir une chance de le convaincre, nous allons donc devoir apprendre à subjectiver nos interventions. Les présenter non comme des jugements certains et infaillibles, mais comme nos propres opinions. Nous pouvons continuer d'y tenir fermement et de les défendre férocement. Tout ce qu'il nous faut, c'est admettre que l'on puisse penser différemment. Au lieu de clamer « cette position est la bonne, ce constat est vrai », nous nous contenterons de dire « je pense que cette position est la bonne, il me semble que ce constat est vrai ». Ce « je » semble anodin, mais c'est lui qui fera toute la différence entre une discussion et une dispute. La quatrième règle, c'est la minoration des désaccords. Au cours d'un débat contradictoire, nous avons tout intérêt à dramatiser la confrontation, accentuer les enjeux, donner à notre échange les allures d'une lutte homérique pour, en cas de victoire, paraître triompher dans le péril et donc avec gloire. Au contraire, la discussion délibérative suppose que nous acceptions de diminuer autant que possible l'ampleur de la controverse. Pour ce faire, nous pouvons commencer par modaliser nos énoncés et utiliser des euphémismes, la figure de l'atténuation. Ne pas affirmer « il nous faut adopter cette solution, je ne suis pas du tout d'accord avec vous », mais plutôt « nous pourrions adopter cette solution, je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous ». Là encore, il s'agit d'outils aussi simples que cruciaux. Moins le fossé entre nos positions paraîtra grand, et plus nous aurons de chances de le franchir. Voilà donc les quatre règles qu'il nous faut respecter si nous entendons engager une délibération sincère avec un interlocuteur. Bien sûr, elles ne garantissent nullement que nous aboutissions au consensus. Nous rencontrerons parfois des divergences d'intérêts ou de valeurs qu'il nous sera impossible de dépasser. Mais au moins, nous aurons découvert le fondement de notre désaccord. Nous saurons pourquoi nous voyons le monde différemment. Tout en nous opposant, nous serons parvenus à nous comprendre. Et qui sait, peut-être demain en viendrons-nous à nous convaincre.